Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans l'Écho Locale, votre rendez-vous hebdomadaire en direct sur Couleur FM, dernière de l'année 2016. Tous les jeudis à midi et en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi, vous allez savoir ce qu'il se passe au cœur de votre territoire berjalien.
Une heure d'information, d'agenda, d'actu, de vie associative et culturelle, de musique, de chronique et d'invités.
Onzième opus de l'Écho Locale, le menu radiophonique consacré à notre territoire. Émission spéciale Noël aujourd'hui, au programme on va parler culture. Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du Jazz à Vienne, nous parle du tremplin Réseau Focal afin de mettre en avant les jeunes talents du festival dans le territoire.
Culture toujours, Marie-Laure Desforges, 8e adjointe au maire et chargée de la culture à Bourgoin-Jallieu, accompagnée de Brigitte Riboreau, directrice du musée municipal. Elles parleront de l'importance de la culture pour tisser du lien social en Nord-Isère. Elles parleront des projets à venir, notamment au musée. Sans oublier la chronique cinéma de Véronique Boulieu, elle nous présentera les films à ne pas rater pendant ses vacances.
Également nos petits reporters des écoles du territoire, les élèves de l'école Jean Rostand vous ont concocté une recette spéciale Noël.
Et pour le dessert, Mathieu nous emmène au show avec la présentation du nouvel album du maître de la cora, Bassissoko. D'ailleurs, en parlant musique, Mathieu, tu as rencontré Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du Jazz à Vienne, pour en savoir plus sur le tremplin national Réseau Focal Jazz.
Depuis 13 ans, le tremplin Réseau Focal Jazz à Vienne vise à porter sur le devant de la scène et mettre en avant les nouveaux talents du jazz dans la région. Avec moi, Benjamin Tanguy, coordinateur artistique du Jazz à Vienne. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur la naissance du tremplin. Comment est née cette initiative ?
Depuis la création de ce festival, Jazz à Vienne a toujours eu pour objectif de soutenir la nouvelle génération, de mettre en avant, en gros, les artistes qui vont marquer le jazz de demain. Et il y a 13 ans, l'idée d'un tremplin national a fait son petit chemin. Et ce tremplin a eu pour objectif en fait de mettre en valeur la scène jazz française. C'est-à-dire que en gros le festival Jazz à Vienne était aussi un petit peu des fois catalogué un peu de festival qui mettait beaucoup en avant la scène jazz américaine et pas assez la scène française. C'est la raison pour laquelle du coup le festival a décidé de créer ce tremplin qui au bout de 3 ans a été soutenu par une entreprise qui s'appelle Focal, qui est fabricant d'enceintes basée à Saint-Étienne. Et depuis quelques années, ce tremplin s'appelle le réseau Focal Jazz à Vienne.
Et qui peut postuler pour ce tremplin? Quel genre de groupe?
Alors le tremplin, il s'appuie sur des partenaires en région, c'est-à-dire on a un partenaire par région qui choisit un groupe. Et en fonction de ces propositions, Jazz à Vienne choisit 9 groupes qui viennent jouer après sur la scène de Cybelle, qui est la deuxième scène du festival, qui est une scène gratuite en plein cœur du festival. Alors après, qui peut postuler? Évidemment, on est sur un tremplin qui met en avant la nouvelle génération, donc c'est plutôt des groupes avec des musiciens assez jeunes, des musiciens qui sont en voie de professionnalisation, qui sont en train de réfléchir à pouvoir vivre de leur musique et qui ont un projet assez mature, mais qui mérite du coup un petit coup de main pour vraiment démarrer dans la vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle ce tremplin donne tous les clés en main pour ces jeunes groupes, pour vraiment s'installer sur le marché du jazz.
Et quelles sont les démarches qu'il faut mettre en place pour postuler à ce tremplin?
Alors il y a dossier de candidature qui a été réalisé, qui est en ligne depuis le 8 décembre. Les groupes ont jusqu'au 8 février pour candidater. Et ensuite, le partenaire en région va faire sa sélection. Et on se laisse à peu près 15 jours après pour pouvoir sélectionner les 9 groupes finalistes qui vont jouer sur la scène de Cybelle. Donc les 9 groupes finalistes du tremplin 2017.
Donc après ce tremplin qui se passera sur la scène de Cybelle, quelle récompense il y a pour le lauréat?
Alors c'est un vrai package dans le sens où on fournit plusieurs prix. Il y a un seul prix par contre, il y a un seul groupe qui est lauréat, qui remporte, on va dire, toutes les récompenses, avec un accompagnement artistique pendant 1 an. Il y a une aide sur l'administratif, sur la communication, sur l'aspect technique et tout ça, toutes les connaissances que peuvent va voir du coup l'équipe de jazz à Vienne pour aider ce jeune groupe à vraiment maîtriser tous ces éléments-là qui sont nécessaires pour faire des démarches, pour répondre à des demandes aussi des organisateurs, de pouvoir peut-être aussi répondre à des dossiers de subvention. Il y a le côté diffusion également, avec une programmation dans une dizaine de festivals, clubs partenaires du festival, avec notamment une tournée au Canada, également dans nos autres festivals partenaires étrangers, avec par exemple une mini-tournée aussi à Tokyo. Et la programmation sur la scène du théâtre antique l'année d'après pour ouvrir cette All Night Jazz. Et ce qui est très intéressant également pour le lauréat, c'est qu'il remporte l'enregistrement dans un studio professionnel, le studio d'Éric Truffaz à Lausanne, le studio Duflon, avec aux manettes l'ingénieur du son du quartet de Truffaz, qui est autre que le clavier du quartet de Truffaz. Et la signature sur un label de renom. Donc le groupe a vraiment tous les éléments pour rentrer dans le milieu professionnel.
Et quels sont les autres partenaires qui collaborent avec vous pour mettre en lumière ces groupes ?
Alors on a des partenaires pour chaque région. Par exemple pour l'Île-de-France, c'est Jazz Magazine et le Sunset Sunside. Pour la région Bretagne, c'est Jazz à Vannes. Pour par exemple la région Rhône-Alpes, ce qui nous intéresse, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Jazzra. Donc on a des partenaires par région, donc c'est eux les partenaires principaux du projet. Il y a Focal, donc je citais tout à l'heure, qui est donc le mécène de ce tremplin là et ensuite la SACEM nous aide un petit peu sur ce projet, mais c'est vraiment un projet qui est porté par le Festival Jazz à Vannes.
Le style musical des groupes qui sont passés par ce tremplin est essentiellement jazz-jazz, ou il y en a qui sortent un peu du lot, qui sont démarqués par un style singulier?
Par exemple, on prend un groupe comme Sidonie Box, qui avait vraiment un style assez original, composé d'un guitariste, d'un saxophoniste et d'un batteur, où il y a des influences noise, rock, metal, où là il y avait vraiment un style particulier. Nox.3, qui est donc le lauréat 2015, avait aussi un style particulier, avec une volonté de mélanger musique acoustique, électroacoustique, électroacousmatique, avec du jazz, avec une influence aussi avec des artistes comme Flying Lotus ou Amon Tobin. Il y a cette nouvelle génération qui utilise évidemment aussi
les
codes de musique actuelle quoi. Après il y a des choses qui sont des fois beaucoup plus classiques, par exemple le lauréat de cette année, le lauréat de 2016, Amorify Trio, est plus dans un jazz jazz lyrique, jazz politique, très influencé par des Bill Evans ou des Brad Meldow. Après, c'est tout l'intérêt de ce tremplin-là, c'est qu'on se met pas non plus de œillères sur les esthétiques musicales. Après, je vous avoue que c'est un tremplin de jazz et que ce qui est un peu trop groove a des fois du mal à passer la phase finale. C'est-à-dire, il y a des fois des groupes qu'on a retrouvés sur la scène de Cybelle dans le dernier carré et après, les membres du jury ne choisissent pas les groupes les plus groves, malheureusement. Et c'est une observation qu'on peut faire sur 90% des tremplins de jazz, malheureusement.
On vous retrouve dans le jury?
Moi, personnellement, non. Je préfère laisser du coup des professionnels s'occuper de juger les prestations des 9 groupes. Donc il y a un président du jury qui est toujours un musicien. Après il y a toujours un journaliste, un directeur de festival et puis le représentant aussi du coup de la marque Focal.
Pour le tremplin réseau Focal, on rappelle les deadlines pour participer à ce tremplin.
Les groupes ont jusqu'au 8 février pour présenter leur candidature via nos partenaires en région. Le dossier est à télécharger directement sur les sites des sites internet des partenaires. Et vous pourrez trouver la liste des partenaires en région sur notre site internet www.jazzavienne.com.
Merci beaucoup Benjamin et on se retrouve très bientôt pour le festival Jazz à Vienne.
À très bientôt, merci beaucoup.
C'était le portrait du jour avec Benjamin Tanguy, le coordinateur artistique du Jazz à Vienne, interviewé par Mathieu Giraud.
On reste dans cette ambiance jazzy et musicale, on écoute tout de suite le monument du jazz manouche, Django Reinhardt, avec un titre qui colle à l'actualité, Noël Blues. Django Reinhardt, le père du jazz et swing manouche avec Noël Blues.
Il est midi passé, si vous ne nous écoutez pas en rediffusion, vous êtes dans l'écho local en direct sur Couleur FM avec nous jusqu'à 13h. Pour cet opus spécial Noël, on a décidé d'axer notre émission sur la culture dans notre territoire.
Effectivement Estelle, je me suis intéressée au musée municipal de Bourgoin-Jallieu et aux différentes actions menées par la mairie pour promouvoir la culture et surtout tisser du lien social dans la CAPI. C'est donc mon reportage de cette semaine. Local et culturel. On va parler en détail du musée de notre ville, le musée municipal de Bourgoin-Jallieu. Avec moi, Marie-Laure Desforges, 8e adjointe au maire en charge de la culture, accompagnée de Brigitte Riboreau, directrice du musée. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, on va revenir ensemble sur l'histoire du musée. On va faire un bref récapitulatif historique. Ce musée a été créé en 1929. C'est une initiative de la mairie et du peintre Victor Charreton.
Alors tout à fait, Victor Charreton a été appelé par le maire de l'époque, Robert Belmont, pour créer un musée de beaux-arts pour mettre le beau et l'éducation au beau au service de la population.
Ce musée se trouve dans un lieu historique, la chapelle des Antonins.
Alors effectivement, le choix à l'époque a été fait d'installer le musée dans la chapelle des Antonins qui servait de dépôt à bois. Et donc il a été décidé de la transformer en lieu d'accueil de ses collections qui se créaient, et par la suite il a été agrandi et étendu à l'ancien hôtel Dieu de la ville lors de sa rénovation dans les années 1990.
Ce musée est connu dans le territoire comme étant un musée dédié aux beaux-arts et au patrimoine textile. L'est-il toujours aujourd'hui ? Quelles sont les singularités de ce musée ?
Alors, je dirais que ce sont toujours ces mêmes grands axes, même si les missions du musée se sont élargies depuis quelques années. Donc, le musée a toujours un axe beaux-arts qui est maintenu, notamment autour des peintres Victor Charreton et Alfred Belay du Poisat. Et le musée a comme axe principal l'histoire du textile de Bourgoin-Jallieu et des environs, et plus particulièrement ce qu'on appelle l'ennoblissement textile. Et le musée a également, par ailleurs, une mission sur le patrimoine de la ville et du Nord-Isère.
On rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs qu'il y a 8000 objets inventoriés dans ce musée.
Alors, plus de 8000. Plus de 8000, puisque lorsque nous avons fait le récollement, nous avons dépassé les 10 000 objets. Et c'est sans compter avec certains fonds d'entreprise, comme le fonds Mermoz, par exemple, ou le fonds PRB, qui, eux, vont nécessiter un inventaire détaillé et qui compte chacun plusieurs milliers d'objets.
On rappelle qu'il y a beaucoup d'œuvres atypiques, de collections. Comment se passe la collecte ? Avec qui travaillez-vous ? Avec des historiens, des entreprises, des organismes ?
Alors, l'enrichissement des collections peut connaître effectivement plusieurs formes, il y a plusieurs moyens. Pour ce qui est de notre musée, dans un premier temps, ça a été Victor Charton qui a été vraiment à l'initiative de ce développement autour des beaux-arts, soit par des dons, de ses propres œuvres, ou bien des dons qu'il initiait auprès de peintres qu'il connaissait. Il y a les achats, qui sont une autre forme d'acquisition, alors que ce soit des achats auprès de particuliers, de collectionneurs, mais c'est vrai aussi pour les collections textiles, hein, ou bien lors de ventes publiques, par exemple, ça peut être des galeries également. Et puis, il y a les dons, tout ce qui est dons, legs, donations. Alors, des dons, le musée de Bourgoin-Jallieu en a beaucoup, tous les ans, très très régulièrement. Et puis, legs et donations, ça c'est un petit peu plus rare, mais c'est déjà arrivé à une ou deux reprises qu'un legs soit fait à l'occasion d'un décès.
Avant de parler de vos actions et également de la culture dans notre territoire en compagnie de Madame Desforges, excusez-moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette fin d'année au musée et sur les projets à venir en 2017. Vous êtes pas mal axé sur le Japon, il me semble, en cette fin d'année. Comment ça se fait ?
Alors, tout simplement, chaque année, la programmation, ce que nous proposons est bien sûr fonction de nos collections, de ce que nous avons dans nos collections. Et chaque année, nous essayons de valoriser plutôt tel ou tel aspect. Mais c'est aussi fonction des partenariats et des contacts qu'on peut nouer sur le territoire avec d'autres partenaires, qu'ils soient associatifs ou structures culturelles. Et en l'occurrence, le Japon, ça a été l'occasion d'une rencontre avec la compagnie Pascoli, entre la compagnie Pascoli, le théâtre Jean Villard et le musée de Bourgoin-Jallieu, et l'accueil du spectacle Mox, qui met à l'honneur le Japon avec une danseuse qui est japonaise, et qui commence son spectacle habillé d'un kimono. Or, le musée de Bourgoin-Jallieu a également des collections d'origine japonaise, avec notamment ce qu'on appelle des katagami, qui sont des espèces de feuilles ajourées, imperméabilisées, et qui permettent d'imprimer des motifs. Mais nous avons également des recueils d'ornements et aussi des œuvres européennes, mais très inspiré par le Japon. Donc c'est l'occasion pour nous de présenter ces différents aspects de nos collections.
Des œuvres qui peuvent être visibles encore en 2017 avec l'exposition d'inspiration japonaise.
Tout à fait. Alors il y a eu d'abord le spectacle au théâtre Jean Villard sur scène. Nous avons accueilli au musée ensuite une performance dansée qui était issue de ce spectacle Mox. Et nous allons prolonger ce travail en présentant cette exposition et en valorisant nos collections, et puis également avec des ateliers pour les enfants notamment.
Vous avez cité le théâtre Jean Villard. Je sais que le musée travaille et collabore avec beaucoup d'organismes et de structures, notamment la CAPI. Marie-Laure Desforges, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur comment le musée est-il un acteur de la politique culturelle locale au sein de ce territoire ?
Ben déjà parce que le musée est unique sur le territoire de l'ACAPI, c'est-à-dire l'agglomération Port de l'Isère, qui comprend 22 communes, dont la ville de Bourgoin-Jallieu est la plus grosse ville. Hein. Et le musée, je voudrais rappeler une chose, que le musée donc est donc surtout axé sur les beaux-arts et le patrimoine industriel lié au textile, à l'ennoblissement du textile. Et surtout, ce musée est ouvert à tous car il est gratuit. Donc on essaye de présenter une œuvre complète et des expositions permanentes, des expositions temporaires qui sont en lien avec les expositions permanentes.
Comme par exemple, tissons le fil avec la médiathèque Capi.
Tout à fait. Alors, avec la médiathèque Capi, nous essayons d'organiser, comme l'a rappelé Brigitte Ribeaureau avec le théâtre Jean Villard, bien que la médiathèque soit une compétence CAPI, mais qu'elle se trouve sur la ville de Bourgoin-Jallieu, nous essayons d'organiser des parcours et des expositions communes. Nous avons eu la semaine dernière, le 15 décembre, une conférence d'art contemporain avec l'association Artsé, qui donc présentait des œuvres au musée, et ils font de même avec la médiathèque, en fait.
Et quelles sont les mesures que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà mis en place en cette année 2016 pour tisser du lien social ?
Alors, tisser le lien social, comme je vous le disais dès le départ, c'est déjà de garder le musée gratuit, pour qu'il soit ouvert à tous, parce que ce n'est pas facile de pousser la porte du musée. Si on n'est pas issu d'une famille où on aime courir les lieux culturels, on aime pousser les portes des expositions, donc c'est pas facile. Donc on essaye de préparer des expositions, de préparer des ateliers, d'aussi d'organiser des conférences, de participer donc au plan local d'éducation artistique qui est aussi on va dire ça, chapeauté par la CAPI. On est aussi en lien avec Culture et Santé, donc tous les organismes chez HPO, le CPND. On essaye d'avoir un éventail assez large pour toucher une population diverse et qui puisse accéder à cette culture qui, est pas facile pour tout le monde.
D'où le terme « activité pour tous » qu'on retrouve dans la plaquette 2016-2017.
Tout à fait, des activités pour tous et tous les âges, puisqu'on organise au musée des anniversaires, on organise des ateliers, il y a eu récemment un atelier bracelet, dont les conférences, on organise des événements tous très différents pour qu'à chaque âge, on puisse trouver une envie d'aller au musée.
Qui dit culture dit également musique. Avant de se retrouver et parler plus en détail des activités de ce musée et également culturelles au sein du territoire, je vous demande, mesdames, de me citer deux musiques de n'importe quel artiste que l'on va écouter tout de suite.
Une musique plutôt ancienne, un artiste plutôt ancien, mais un jardin en hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Dans mon jardin d'hiver.
Henri Salvador, Jardin d'hiver, c'est la sélection de Marie-Laure Desforges, 8e adjoint au maire à la culture. Elle est avec nous en compagnie de Brigitte Ribeaureau, directrice du musée de Bourgoin, pour nous parler culture dans le territoire. Madame Ribeaureau, quelle est votre sélection musicale avant de se retrouver pour parler en détail des projets à venir au musée?
Eh bien, les gymnopédies de Satie.
Éric Satie, Gymnopédie partie 1. Et juste avant, vous avez entendu Henri Salvador avec Un jardin d'hiver. C'est la sélection de nos deux invités de cette semaine, Brigitte Ribeaureau, directrice du musée de Bourgoin-Jallieu, et Marie-Laure Desforges, 8e adjoint au maire et chargée à la culture de la mairie de Bourgoin-Jallieu. Elles sont avec nous pour nous parler en détail de la programmation du musée en 2017 et des actions culturelles sur le territoire en cette fin d'année et à venir. Dans cette éducation à la culture, il y a donc des activités de médiation. Est-ce que vous-même ou Brigitte Ribeaureau pouvez revenir justement sur ces différentes activités qui vont être mises en place pour 2017.
Comme nous avions donc l'exposition Avec et sans stress, donc c'était une exposition à base de 70 artistes qui avaient travaillé avec 50 cm de lacets, de croquets, de rubans, et qui avaient donc fait chacun avait donc fait une œuvre artistique. Et nous avions donc, Brigitte avait donc organisé des ateliers autour de ces tresses, de ces lacets, de ces rubans pour confectionner des bracelets. Voilà un atelier type du musée.
Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût d'une prochaine expo prévue pour 2017? Je ne sais pas si on peut déjà avoir quelques mots là-dessus.
Ça va être les collections japonaises ou d'inspiration japonaise mise à l'honneur. Et en fait, l'année 2017 pour nous va être focalisée sur les collections du musée pour valoriser certains axes de ces collections que nous ne pouvons pas montrer pour diverses raisons de façon permanente, ou bien sur lesquels nous avons mené un important travail, par exemple de restauration et de conditionnement. Je pense notamment au fonds d'art graphique qui a été restauré sur 3 années consécutives. Ce sont des moyens importants qui sont mobilisés, mais c'est la pérennité des collections qui est en jeu. Et ce qui nous permet également à cette occasion de mieux connaître certaines de ces collections et qui par la suite peut favoriser aussi leur circulation par des prêts notamment.
On parlait tout à l'heure de tisser du lien social, vous tissez également des liens avec d'autres organismes, d'autres associations. On a parlé un peu de la CAPI, du théâtre Jean Villard. Est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur les différents organismes qui collaborent pour cette culture dans le territoire?
Alors, vous voulez parler du pôle métropolitain?
Exactement.
Voilà. Donc, le pôle métropolitain, en fait, met en place certains événements, certaines actions qui sont donc ensuite conduites par l'agglomération. Normalement, c'est le rôle. L'organigramme se déroule de cette façon. Le pôle métropolitain, l'agglomération, pour nous, c'est la CAPI. Et la ville de Bourgoin-Jallieu a la chance d'avoir des équipements culturels de grande qualité et avec beaucoup de matière et d'énergie pour pouvoir adhérer à ces événements que le pôle métropolitain met en place. C'est notamment le cas pour la nuit des musées, les journées du patrimoine, où Brigitte exposera plus en détail ce que l'on présente lors de ces journées qui dépassent la ville de Bourgoin-Jallieu, l'organisation faite par la ville de Bourgoin-Jallieu.
Brigitte Ribourault, alors, pour ces journées.
Alors, effectivement, c'est arrivé déjà à plusieurs reprises, même en dehors des journées européennes du patrimoine, que le musée soit amené à collaborer à des projets et à les porter, à être pilote de ces projets. Je pense notamment, il y a quelques années, à un parcours d'art contemporain sur le territoire de la CAPI qui était en lien avec le pôle métropolitain et la biennale d'art contemporain à Lyon, et qui avait été soutenu également par Isère Porte des Alpes, vous voyez, qui mettait beaucoup d'acteurs institutionnels à différents niveaux dans la balance, dans le même panier. Et pour ce qui est des journées européennes du patrimoine, depuis plusieurs années, il y a des projets qui sont portés à l'échelle du pôle métropolitain et ensuite déclinés dans les différentes agglos. Ça a été plusieurs années de suite une publication sur la thématique qui était retenue. Il y a eu la nature, il y a eu les moyens de transport, il y a eu le textile. Et pour cette année, c'est une nouvelle formule, puisque c'est une saison patrimoine qui est déclinée au fil de l'année à partir des journées européennes du patrimoine et de la thématique de cette année. Donc il y a 3 week-ends. L'un est déjà passé, c'était au mois de novembre. Il y en a 2 à venir, fin janvier et fin avril 2017, et où nous avons proposé ici l'intervention d'une compagnie amateur qui sensibilise au patrimoine et donne une approche au patrimoine, le thème étant patrimoine et citoyenneté.
Vous parlez donc de l'activité pour tous avec Elisabeth Boivin le 23 avril 2017.
Alors ça, c'est encore un autre aspect de cette saison, une autre offre de cette saison patrimoine qui effectivement va être à Bourg-Montjalieu, cette visite commentée, le patrimoine au fil de la citoyenneté, la compagnie de l'Antisèche, elle intervenant... est déjà intervenue à Bourg-Montjalieu au mois de novembre et elle va intervenir maintenant dans les communes de Chaiseneuve et de Maubec avec cette petite forme théâtrale qui permet de découvrir l'école autrefois.
Cela fait combien d'années que le musée de Bourg-Montjalieu est intégré dans ce projet du pôle métropolitain ?
Eh bien, ça commence à faire quelques années puisque je crois qu'il y a eu de mémoire... 4 publications, une première année qui était, on va dire, l'année zéro. Donc, ça doit faire 4, 5, 6, ça doit être la 5e ou la 6e année.
Est-ce qu'on ressent une évolution notable du fait de cette incorporation dans ce projet ?
Alors, si vous voulez parler en termes de...
Au niveau culturel et d'éducation à la culture dans le territoire.
Alors, je dirais qu'il y a... À mon sens, un avantage, c'est que ça permet aux communes de travailler ensemble et peut-être d'avoir une offre qui, du coup, est identifiée. Ce qui est complexe, encore aujourd'hui, où on parle de circulation des populations, des publics, on se rend compte que c'est toujours assez difficile d'aller vers cette circulation. Mais... Je pense que ça va être un travail de longue haleine.
Cela doit être également passionnant de travailler avec d'autres structures. Je vois notamment le théâtre Jean Villard et le musée qui sont quand même bien ensemble sur beaucoup de projets.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que tous les acteurs culturels s'associent pour travailler ensemble. Et en fait, quand on parle du pôle métropolitain et dont leurs projets sont pilotés par l'ACAPI, l'ACAPI, elle a son rôle eh bien, de lancer cet éventail sur toutes les petites communes. Parce qu'en fait, Bourg-Montjalieu, c'est la plus grosse commune, mais les autres 21 communes ont besoin de culture, ont besoin qu'il se passe des choses sur leur territoire, enfin, sur leur commune. Et pour tout ça, c'est important. Donc le fait que le Théâtre Jean Villard travaille avec le musée, travaille avec les associations, travaille en lien, alors ça se fait dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire que nous on va travailler avec la CAPI, avec les médiathèques, le conservatoire, donc c'est très bien. Aujourd'hui il faut vraiment qu'il y ait un échange, il faut vraiment qu'on pense partenariat chaque fois qu'on a le projet d'un événement, et c'est mon souhait aussi au niveau des associations culturelles que je réunis régulièrement et que j'essaye de les faire se rencontrer pour qu'elles puissent mettre en œuvre des projets, parce que seul on peut rien faire aujourd'hui, hein. Il faut vraiment que ce soit diffusé à plus grande échelle, en fait.
Et cela permet de répondre aux attentes des citoyens du territoire également. Le fait d'imbriquer toutes les associations,
oui.
Ça permet de, on va dire, sonder les attentes culturelles.
Il faut que la culture aille vers eux, il faut donner du sens. S'ils ne sont pas dans une famille où on les emmène, on va peut-être les emmener à un match de rugby, à un match de foot, mais peut-être pas aussi spontanément au musée ou au théâtre. Donc c'est peut-être à nous de faire l'effort de se dire, eh ben, on va vers eux, on leur apporte quelque chose. Et donc ça développe leur sensibilité, leur curiosité, et on aime ou on n'aime pas. Mais au moins, on connaît, on peut partager, on peut échanger, et puis on peut... après grandir avec. Et puis il ne faut pas oublier que moi je suis très attachée au travail que l'on fait avec les jeunes publics, parce que c'est le public de demain.
Exactement.
Et comme je disais au début, ben, la culture, on en a besoin plus que jamais, on en a besoin, et elle nous apporte un peu de baume au cœur,
surtout dans ce contexte de troubles,
voilà,
politiques
de
et sociales qui
tout
est...
à fait on va dire ça comme ça.
Peut-on avoir quelques mots sur les missions culturelles donc, de la CAPI ou du musée pour 2017, s'il y en a d'autres qu'on pourrait évoquer ?
Alors, on va peut-être rappeler qu'en 2017, à Bourgoin-Jallieu, ça va être un anniversaire, parce que c'est les 50 ans de la fusion de Bourgoin et Jallieu. Donc, ça sera une année où il va se passer plusieurs expositions faites ou par des associations ou nous-mêmes au musée. Brigitte va organiser avec les archives pendant le mois de juillet et août une exposition sur la fusion. Donc, encore une occasion d'aller au musée et de pouvoir, comme je dis toujours, pousser les portes et de pouvoir... aller regarder cette exposition qui nous présentera le Bourgoin et le Jallieu d'hier qui est devenu le Bourgoin-Jallieu d'aujourd'hui. C'est important parce qu'on a une région qui est très riche et je pense qu'on ne la connaît pas assez.
Merci beaucoup en tout cas Madame Riboro et Madame Desforges d'être venues à notre rencontre.
C'était avec plaisir, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et si vous avez un petit mot de fin pour nos auditrices et nos auditeurs pour la culture dans le territoire?
La culture sur le territoire, eh bien, il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur notre territoire, comme on l'a expliqué. Et je pense qu'il faut vraiment s'informer, aller sur le site internet de la ville de Bourgoin-Jallieu, où on a actuellement, depuis cet été, une newsletter culturelle et qui relate tous les événements aussi bien associatifs que organisés par la ville ou en lien avec la CAPI ou le pôle métropolitain. Et je pense que abonnez-vous en même temps, la newsletter de la ville, la newsletter culturelle, et vous verrez qu'il s'y passe beaucoup de choses, et les vacances arrivent, et pendant les vacances scolaires, on pense aussi aux enfants, alors organiser des spectacles, des ateliers au musée.
C'était Marie-Laure Desforges, 8e adjointe au maire et chargée de la culture à Bourgoin-Jallieu. Elle était accompagnée de Brigitte Riboro, directrice du musée municipal, au micro de Mathieu Giroux.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 97.1, vous êtes dans l'Écho Local, une émission consacrée à l'actualité culturelle dans nos territoires, diffusée sur Couleur FM tous les jeudis de midi à 13h et rediffusée tous les vendredis à 19h, les samedis à 7h et les dimanches à midi.
C'est l'heure de la deuxième partie de notre émission. On part dans le monde de l'art visuel. Place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Merci Estelle, merci Mathieu. Alors cette semaine, 5 nouveautés au cinéma Kilépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire. Norme, un film d'animation américain de Trevor Wall avec Ya Yao Pink. La bataille géante des boules de neige, un film d'animation canadien de Jean-François Pouliot et François Brisson. À fond, une comédie française de Nicolas Benamou avec José Garcia, Caroline Vigneault et André Dussolier. Joyeux bordel, une comédie américaine de Joss Gordon et Will Speck avec Jennifer Aniston, Jeff Batterman, Olivia Munn et Todd Joseph Miller. Assassin's Creed, un film d'aventure américain de Justin Kersel avec Michael Fassbinder, Marion Cotillard, Jeremy Irons et Javier Gutierrez. Mon coup de cœur de cette semaine ira pour Ballerina. En ces périodes de fêtes, j'ai trouvé que c'était une pas mauvaise idée. Et puis, c'est un joli film d'animation français d'Éric Sommer et Éric Voirin. Ça nous change des histoires de Walt Disney. Alors, l'histoire, Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion, la danse. Avec son meilleur ami, Victor, qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s'échapper de l'orphelinat. Direction Paris, un film à voir en famille pendant ces fêtes de fin d'année. Alors n'oubliez pas, Kinépolis, c'est www.kinépolis.fr et profitez de ces fêtes pour aller voir tous les films qui sont sortis.
Couleur FM vous souhaite un joyeux Noël.
C'était la rubrique cinéma de notre émission L'Écho Local. Merci beaucoup Véronique. On va revenir sur cette thématique de Noël. Nos petits reporters de l'école Jean Rostand, avec qui Estelle Gély intervient dans le cadre d'étapes, temps d'activité périscolaire, ils vous ont concocté la fameuse recette de la bûche de Noël.
Pour 8 personnes, les ingrédients. Pour le biscuit, 60 g de farine, 40 g de maïzena, 4 œufs, 150 g de sucre, 50 g de beurre. Pour la crème, 500 g de crème de marron, 250 g de beurre mou. Pour le sirop, 100 g de sucre, 5 g de chocolat noir.
Dans un saladier, fêtez 4 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre jusqu'à que le mélange blanchisse et mousse. Puis ajoutez la farine, la maïzena et le beurre fondu. Une fois que le mélange est homogène, ajoutez 4 blancs montés en neige à l'aide d'une spatule. Étape 2. Sur une plaque, allons au four d'environ 40 sur 25 cm. Posez une feuille de papier sulfurisé légèrement beurrée, puis versez une pâte dessus. Faites cuire pendant 8 à 10 minutes à 180 degrés, four préchauffé, jusqu'à ce que le biscuit se colore légèrement. Troisième étape, mouillez le torchon propre, essorez-le et étendez-le sur le plan de travail d'un geste vif. Retournez le biscuit sur le torchon, puis décollez délicatement le papier sulfurisé, pliez une bande de gâteau sur 1 cm, puis en tenant le torchon, roulez délicatement le biscuit sur lui-même. Laissez-le refroidir, comptez environ 30 minutes, n'attendez pas pour le rouler et faites-le dès la sortie du four quand le biscuit est encore chaud. chaud et bien souple.
Pendant que le biscuit refroidit, mélangez au robot ou à la main la crème de marron avec le beurre mou. Vous pouvez également ajouter quelques brisures de marron glacé.
Étape 5. Une fois refroidi, posez le biscuit sur une feuille de film alimentaire et déroulez votre biscuit délicatement à l'aide d'un pinceau. Imbibez-le au sirop fait avec 100 g de sucre et vous avez fait bouillir 5 minutes avec 15 cl d'eau.
À l'aide d'une spatule, étalez les deux tiers de la crème sur toute la surface du biscuit. Roulez-la à nouveau délicatement en l'enfermant dans le film serré sans l'endommager pour qu'il prenne une forme régulière en le roulant. Il se peut que de la crème s'échappe du biscuit. N'hésitez pas à la récupérer pour le glaçage. Pour finir, étape 6, faites fondre 50 g de chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes et mélangez-les au reste de la crème au marron. Étalez régulièrement cette crème sur toute la surface de la bûche en lissant. Dessinez les stries de la bûche en passant une fourchette sur toute la longueur. Puis placez-la au réfrigérateur pour au moins 12 heures avant de glacer la bûche. Posez-la directement sur le plat de service.
Couleur FM est la radio idéale pendant les fêtes.
Merry Christmas! Joyeux Noël sur Couleur FM!
C'était nos petits reporters de l'école Jean Rostand avec Lucie et Noah. Vous êtes dans l'écho locale sur Couleur FM. Pour terminer ce menu radiophonique, Mathieu quitte un instant notre territoire et nous emmène en balade sonore autour du monde. Alors Mathieu, où va-t-on aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis gelé, je meurs de froid. Je vous propose donc de venir avec moi vous réchauffer en Guinée avec le nouvel album du maître de la kora, Bassissoko. C'est mon coup de cœur de cette semaine.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque
de la semaine.
L'un des grands maîtres de la kora, le griot guinéen Bassissoko, a sorti cette année son cinquième album, Jelly. Toujours en quête de moderniser la tradition mandingue, il l'honore en l'ouvrant sur l'Atlantique et le Nigeria. La kora et le ngoni côtoient l'afrobeat nigérian, les rythmiques afro-cubaines et le reggae. Le multi-instrumentiste chanteur avec Jelly sorti sur le label Crystal Records fait un clin d'œil métissé à son histoire, son passé, son présent et son futur. Bassissoko est né en Guinée à 600 km de Conakry dans une famille de griots. Il a repris le flambeau avec détermination. Il débarque avec sa kora à Marseille en 95 et commence à ouvrir sa musique à l'international. Depuis 99, il a parcouru les plus grandes scènes des festivals à travers le monde. Toujours ancré en terre mandingue, sa musique a évolué en même temps que son parcours. Il garde avec lui son rôle de griot, il rend donc hommage aux univers musicaux qu'il a rencontrés et aux griots du monde entier. Comme sur le morceau Baïfal en hommage aux mourides sénégalais. Bassissoko, militant et conscient, veut toucher un large public. C'est pour cela qu'il alterne les chants en malinké, en wolof et en peul. Il reprend en français pour la première fois de sa carrière certains couplets de ses chansons, comme C'est pas facile, où il dénonce les conditions de vie des migrants.
Hey Joe, c'est pas facile. C'est pas facile, l'immigration c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, l'immigration c'est pas facile.
Il parle aussi du retour du pays, des traditions, dans une musique reggae mandingue consciente.
From Africa to France. From Conakry to Paris, Bassissoko alongside a man called Yelam. We have a great message.
Ibata mantama, ikanangina fasolade. Ibata mantama ndoni, ikanangina fasolade.
Maître de la kora, Bassi Soko est un multi-instrumentiste. On le retrouve dans cet album aussi à la guitare et au djelingoni. Qui résonne comme 13 voyages dans la vie de Bassi Soko, où il nous amène dans les étapes de son parcours, dans son héritage bercé par les notes de sa kora ou de la guitare et d'une goni, et bien sûr de sa voix singulière.
Toye alabazara Joguya malde Joguya malde Joguya malde Joguya malde.
Entouré de ses plus fidèles musiciens, dont mon ami percussionniste D'Artagnan Camara, Bassi Soko nous livre ici Djeli, l'album certainement le plus abouti de sa carrière. Un disque sincère, riche en harmonie, en métissage, en fusion des rythmes, il marque de manière indiscutable sa curiosité artistique et son héritage musical international. Bassi Soko entremêle les cordes de sa kora, le mandé embrasse le mbalar et le mandioruba, présent au Cuba et dans l'afrobeat nigérian. Il renoue avec la diaspora africaine en Jamaïque sur des notes reggae et dans les Amériques avec les groupes funk voire latins. Bassi Soko Djelia. C'était Bassi Soko, le retour du grand griot guinéen avec Djelia, extrait de son nouvel album Djeli, mon coup de cœur de cette semaine.
Cinéma, concerts, ateliers, vernissage, il se passe beaucoup de choses dans le coin. On vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer, place à l'agenda.
C'est Noël à Bourgoin-Jallieu jusqu'au 24 décembre. Les 16 chalets du marché Noël situés place Carnot entre l'église Saint-Jean-Baptiste et l'office municipal du tourisme vous attendent tous les jours en attendant les fêtes de fin d'année. La place du 23 août accueille quant à elle le village des enfants.
Découvrez sans tarder sur les pavés la place la nouvelle exposition de la maison du centre-ville de Bourgoin-Jallieu consacrée au chantier de la rue de la Liberté. C'est à découvrir du lundi au vendredi jusqu'au 31 décembre. Et puis Smicar vous présente son exposition Une lueur d'espoir à l'espace Carnot de Bourgoin-Jallieu. Des toiles de Raph P.O., une réflexion autour des dérives de la violence, de la haine et des excès sécuritaires. C'est à découvrir du 13 au 24 décembre et retrouver l'interview de cet artiste sur notre site www.couleurfm.com.
Juste après les fêtes, spectacle en famille au musée municipal de Bourgoin-Jallieu basé sur le conte et bien sûr le textile. Cela se déroulera le mercredi 28 décembre à 15h30. L'écho local touche à sa fin. Retrouvez toutes nos émissions sur le site internet de Couleur FM, www.couleurfm.fr, et également en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi.
Une émission présentée par Mathieu Giraud
et Estelle Gély.
On termine cette année avec la citation du jour présentée par Véronique Boulieu.
Merci Estelle, merci Mathieu. Alors les citations du jour, comme on est en fin d'année, on va se faire des vœux pour l'année qui arrive, 2017. Alors si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels il y a longtemps, que la terre serait déserte car les hommes demandent beaucoup de choses nuisibles au genre humain. Et c'est une citation d'Épicure. Et puis une autre, allez, j'avais envie, puisque
c'est Noël, on
se fait des cadeaux. Il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie. Et là, c'est un proverbe chinois. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous nos auditeurs de joyeuses fêtes de Noël, une très bonne année. Et puis pareil à Mathieu, pareil à Estelle. Et puis un grand merci à William qui va rejoindre notre équipe début janvier et qui pour l'heure nous a aidés dans la réalisation de ces dernières émissions de l'année, l'écho local. Merci à tous.
Merci Véronique, également joyeux Noël. Merci aussi aux auditeurs, à nos auditrices, à nos auditeurs. Et également joyeux Noël à eux et également à William. C'était l'écho local, le menu radiophonique consacré à notre territoire. Très bonne fête de fin d'année à vous. On termine en musique avec Louis Armstrong, White Christmas.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmas is me one.